Europe 1. Europe 1. On te la raconte.
Cette histoire débute en octobre 1859 à Saint-Cyr-Mandor, près de Lyon. Lorsqu'un villageois, M. Bénet, s'étonne de ne pas avoir de nouvelles de ses voisines, les dames Gaillet. Marie, la grand-mère, Jeanne-Marie, la fille, veuve, et Pierrette, la petite fille, 70, 38 et 13 ans. Tout le monde les connaît, les dames Gaillet, et M. Bénet, le villageois inquiet, a l'habitude de passer les voir régulièrement pour s'occuper des bêtes si elles doivent s'absenter. C'est que chez elles, ben, y a pas d'homme. Or, ce matin, en passant devant la ferme, le portail était fermé. Et les volets aussi. C'est pas bien normal, ça, qui s'est dit. Non, c'est pas bien normal. Et c'est encore moins normal quand, le soir, il repasse devant la ferme des dames Gaillet et qu'il entend les bêtes, les vaches, les chèvres, les moutons. Il est de la campagne, monsieur Bénet. Il reconnaît tout de suite des bêtes qu'on n'a pas sorties, des vaches et des chèvres qu'on n'a pas traites. Alors, le lendemain matin, avec deux voisins, il décide d'aller voir. Et les voilà donc tous les trois qui poussent le vieux portail rouillé de la ferme des dames Gaillet, en se disant que décidément, manque un homme là-dedans. La ferme des dames Gaillet, elle est typique de l'époque et de la région. Au rez-de-chaussée, il y a l'étable. On accède à l'étage par un escalier extérieur qui donne sur une galerie en bois qui court sur toute la façade. À droite, la porte de la cuisine. À gauche, la chambre à coucher. Les trois voisins frappent à la porte. Pas de réponse. Alors M. Bénet prend une échelle pour regarder dans la chambre d'en haut. Les lits ne sont pas défaits. Et surtout, tout le linge des armoires est répandu sur le sol. Alors les trois décident de forcer la porte de la cuisine et ce qu'ils découvrent les laisse sans voix. Oh bon Dieu ! Sur le sol de la cuisine, au milieu d'une mare de sang, noir, coagulé, les corps de trois femmes. La grand-mère, la mère, la petite fille. La grand-mère près de la fenêtre, face contre terre. La mère et la fille côte à côte sur le dos, les jambes écartées. Un carnage et une odeur insupportable. Ils s'en vont tout de suite prévenir le maire. On a tué les dames Gaillet. Et voilà donc les gendarmes, le commandant en tête, le juge de paix du canton et le docteur qui débarquent à la ferme, devant laquelle une bonne partie du village est déjà attroupée. Et chacun a déjà son idée. Des vagabonds, des va-nu-pieds, des bagnards sortis trop tôt de prison. Le docteur procède aux premières constatations. La mère a une fracture du crâne. Elle a reçu au moins deux coups de couteau. Et son cou est entaillé comme si on avait frappé avec une hache. La marque est si profonde qu'on voit de la nourriture qui s'épanche de l'ésophage. La petite Pierrette a le sein perforé. Son cou porte aussi des blessures qui ressemblent à des blessures de hache. Et là encore, des restes de repas s'épanchent à l'extérieur. La grand-mère, enfin, a des plaies au sein et à la tempe et des marques de strangulation sur le cou. La mère et la petite fille ont été violées, pas la grand-mère. C'est le contenu de l'estomac qui s'épanche donc des corps de la mère et de la fille qui permet d'avoir une idée de l'heure de la mort. Des châtaignes, à peine digérées. Et renseignements pris, les dames Gaillet dînaient d'habitude vers 6h30, 7h du soir. Vu qu'elles n'ont pas digéré, c'est que la mort est intervenue juste après le dîner, vers les 7h du soir. Et tout le monde se souvient qu'à cette heure-là, ce soir-là, a éclaté un très gros orage. Pendant que le docteur fait ses constatations, les gendarmes, eux, fouillent la maison. Dans un seau d'eau sale et sanguinolente, ils trouvent une grosse pierre. Et dessus, des cheveux blancs collés. « C'est avec cette pierre que la grand-mère a été massacrée », dit le docteur. Dans un tonneau de blé, les gendarmes trouvent aussi un couteau de paysan couvert de sang. La chambre est sans dessus dessous. On a vidé les armoires sur le sol. On cherchait quelque chose. Les gendarmes sont en train de dessiner un plan détaillé de la ferme quand surgit un homme. Ben ça alors ? Moi qui étais là la veille au soir avec ces pauvres femmes, j'étais pour régler un compte de vigne. Elles m'ont même offert du vin nouveau. Et l'homme s'éloigne. C'était qui ? Demande le gendarme. Ben c'est Joannon. C'est un voisin. Sa maison est à deux pas d'ici sur le chemin de Polémieux. Et il les connaissait bien, les Gaillet ? Ah dame, pour sûr qu'il les connaissait. Il a même travaillé pour elle. À ce qu'on dit, il voulait marier la Marie, mais elle, elle voulait pas. Joannon. Le gendarme note ce nom dans un coin de sa tête et toute la journée, c'est le défilé des voisins, le défilé des curieux. Et parmi eux, deux hommes, deux ouvriers des carrières. Les gendarmes les empêchent de passer, mais ils insistent. Ils prétendent être les héritiers des dames Gaillet. Ils sont bien pressés, les héritiers, et du coup, ils attirent l'attention des Pandores. Et c'est qui ces deux-là ? Eux ? Ben, c'est Chrétien et Deschamps, c'est de la famille éloignée des dames Gaillet. Le lundi a lieu l'enterrement des trois femmes. Et presque tout le village est là. Et comme le veut la tradition, les gens font en convoi le chemin qui va de la maison des dames Gaillet jusqu'à l'église. C'est qu'elles étaient bonnes chrétiennes et très appréciées dans la paroisse. Et comme dans ce genre de village, tout le monde sait tout sur tout le monde, les gendarmes n'ont aucun mal à se rencarder sur les victimes. Jeanne-Marie, la mère, était la veuve d'un soldat de la campagne de Russie. Et attention, restait fidèle au souvenir de son mari mort il y a 12 ans. Et pourtant, d'après ce qu'on dit, elle ne manquait pas de prétendants. C'est important de le dire à ce stade du récit, elle avait du bien pour une fermière. Des montres et des bijoux, que d'ailleurs on n'a pas retrouvés, des rentes, 32 000 francs de bien, la maison et les champs qui valaient bien dans les 20 000 francs. Pour une paysanne, elle n'était pas fauchée. Loin de là. C'est elle qui a recueilli chez elle sa mère, qui malgré ses 72 ans, donnait encore un coup de main au champ. Quant à la petite Pierrette, du haut de ses 13 ans, elle était sérieuse, espiègle, mais sérieuse, élevée dans les valeurs du travail et de la piété. Meilleure élève du pensionnat des sœurs de Saint-Joseph à la dernière distribution des prix, c'est elle qui a récité le compliment pour le conseiller général. La vie de ces trois femmes était très simple. La vie des gens de la campagne, les travaux des champs, la traite des deux brebis et des six chèvres dont le lait servait à faire le fameux mont d'or. Les fêtes religieuses, bien sûr, les visites aux malades et la charité. Ah ça, la charité, elles y tenaient, les dames Gaillet. À l'automne, elles allaient même à Lyon acheter des habits pour les donner aux pauvres. Et bien des vagabonds ont trouvé chez elles une soupe et des vêtements chauds. Est-ce qu'elle n'aurait pas été un peu trop confiante ? C'est une piste. Mais franchement, ça n'est pas la piste privilégiée par les gendarmes. Non, eux pensent plutôt que les meurtriers sont des familiers. Il fallait connaître leurs habitudes pour venir à 7 heures, juste avant qu'elles ne se couchent et ne se barricadent dans leur chambre pour la nuit. Et dans leur idée, ils étaient trois. Trois agresseurs. Et en vérité, ils ont déjà un suspect. Oui, ils pensent déjà à quelqu'un. Joannon, le voisin, qui est venu se faire remarquer le jour où on a découvert le crime. Il les connaissait bien. Il a travaillé pour elles. Et surtout, il a mauvaise réputation. Très mauvaise réputation. Tous les gens du village le désignent. Pour en savoir un peu plus sur son compte, les gendarmes vont voir le maire, qui est aussi notaire. Et qui tempère un peu leur ardeur. Je sais bien que Joannon n'est pas très aimé par ici, et qu'il est colérique, mais tout de même, il y a une marge entre mauvais coucheur et assassin. Cela dit le maire dans la foulée. Il se souvient bien que la mère Gaillet lui a dit « Ce Joannon, ben il m'ennuie bien, hein ?» Alors, renseignons-nous sur ce Joannon. Il a 33 ans, son père est notaire à Lyon, mais lui n'a ni fortune ni métier. Il a bien essayé d'apprendre l'orfèvrerie, il n'est pas allé jusqu'au bout. Du coup, à Saint-Cyr, il vit de pas grand-chose. Il bricole. Les gens l'appellent Joannon la piquette, parce qu'entre autres choses, il vend du vin coupé d'eau. Mais c'est pas tout. Les gens du coin le soupçonnent d'être tombé dans la luxure, le péché de chair, une bite à roulette, ce joinon, capable de demander 3 femmes en mariage en même temps et d'aimer aussi bien les jeunes femmes nubiles que les vieilles édentées. Mais surtout, ce qui dès le début attire l'attention de l'enquête sur lui, c'est qu'il a travaillé pour les dames Gaillet, comme ouvrier agricole. Et ça s'est pas bien fini, à ce qu'on dit. Il aurait demandé la main de la mère, Jeanne-Marie. Elle l'aurait éconduit. Et elle aurait fini par le renvoyer. Il en aurait gardé de la rancœur, au point de la tuer, avec sa mère et avec sa fille. Les gens du village, en tout cas, disent que ce joinon tenait au sujet des dames Gaillet des propos inquiétants. Elles font un dieu de leur fortune, mais on sait jamais ce qui peut arriver à des femmes seules. J'aurai les Gaillet, ou ce sera le loup. Il se serait même vanté d'avoir tenté de violer la mère, au champ. Il pleuvait, elle s'était réfugiée dans une cabane, il l'y avait rejointe. Elle ne s'était pas laissée faire. « J'ai pas réussi, elle m'a tout égratigné !» Et puis, on le voyait souvent tourner autour de la maison des Gaillet. Et la petite Pierrette avait dit à une de ses camarades qu'elle avait peur de lui, que parfois il escaladait la clôture. Bref, vous l'avez compris. Joinon est le suspect idéal. Sauf que dans la tête des gendarmes, ils étaient 3. Ils en tiennent 1, peut-être. Mais du coup, il en manque 2. Quatre jours après le meurtre, le juge d'instruction décide d'entendre ce joinon comme témoin. Un gendarme vient le chercher à Saint-Cyr. Il le trouve au champ. Il est très nerveux. Très nerveux. « On me fait perdre mon temps. Est-ce qu'on me paiera au moins ?» Le juge s'intéresse à l'emploi du temps de ce joinon, le soir du crime. Il dit qu'il a quitté les champs à 4 heures à cause de la pluie et qu'après, il est allé chez lui. Et puis vers 8 heures, je suis allé chercher du levain. Du levain chez le boulanger, chez Pionchon. Sauf qu'en sortant de chez le juge, l'abruti se rue chez le boulanger Pionchon pour lui demander, si on lui pose des questions, de confirmer qu'il était avec lui ce soir-là. Que fait le boulanger? Il prévient les gendarmes. Et c'est peu dire que ça conforte les soupçons du juge, qui le fait revenir. Et là, l'autre l'embrouille. Il n'est plus sûr du jour où il s'est rendu chez le boulanger. Et quand on lui demande quand il a vu les dames Gaillet la dernière fois, « Oh ben moi !» Je crois que je les ai jamais revus depuis qu'elles m'ont mis dehors. Jamais. Et des habitants du village s'empressent de dire que c'est faux. Il les a revus. Le juge pense qu'il a assez de biscuits pour le faire arrêter sur le champ. Mais 4 mois après le crime, il y a du nouveau. Le 15 février 1860, un couple tente de fourguer 2 montres à un horloger de la place d'Arbos à Lyon. Un couple de paysans endimanchés. Ils disent s'appeler Chrétien, Monsieur et Madame Chrétien. Ils habitent Saint-Cyr au Mont-d'Or. Mais l'horloger se méfie. Intuition. Et il leur propose de revenir le lendemain. Et en attendant, il garde les montres. Et dans la foulée, ils se précipitent au commissariat. Et ce sont bien les montres des dames Gaillet. Alors le lendemain, les gendarmes déboulent chez les Chrétiens. Et les 2 montres, ils les leur présentent. « Je les connais pas, ces 2 montres. Je suis jamais allé chez cet horloger. » Mais comme ils voient que ça ne passe pas, ils tentent une faribole. Ces montres seraient tombées d'une armoire au sens propre, quand les meubles des Gaillet après le meurtre ont été vendus. Ben c'est quand le père Éclairci a fait bouger l'armoire qu'il a acheté. Un paquet est tombé de l'armoire, je l'ai ramassé. C'était des montres, dans un linge. Par acquis de conscience, les gendarmes vont voir le susdit Éclairci. Ben y avait rien dans l'armoire, hein. J'ai vérifié avant la vente, hein. Donc, Chrétien ment. S'il a les montres, c'est qu'il les a prises le jour de l'assassinat. Voilà la vérité. Les gendarmes fouillent sa maison, ils trouvent 670 francs en espèces. Bon, ça, c'est nos économies, hein. Ma paye de contremaître aux carrières et puis les ventes d'œufs et de poules de ma femme. Mais derrière une pile de linge, les gendarmes découvrent dans un sac de toile une bourse qui contient 1380 francs en pièces d'or. Ben ça, c'est de l'argent à moi, dit la mère chrétienne. Depuis que j'ai 12 ans, je le mets de côté. J'avais un boursicot de 600 francs quand je me suis marié. C'est ma mère qui me l'a donné. Personne ne savait, pas même mon mari. Et puis j'ai économisé avec la basse-cour et ce que me donne Monsieur Bachelu quand il vient. Monsieur Bachelu. Le mari semble surpris et en colère. Il est cocu. Mais il ne dit rien de plus. Et les voilà mari et femme arrêtés à leur tour. Et quand le juge demande à Chrétien de justifier son emploi du temps le jour du meurtre, il s'embrouille, il se contredit, il prétend qu'il est revenu du chantier à 6 heures, puis à 7 heures, avant de reconnaître qu'il n'est pas rentré chez lui avant 8 heures. Sa femme, elle, reste accrochée à son histoire d'économie. Ainsi, vous avez économisé pièce par pièce pendant des années, et vous avez gardé toutes ces pièces dans ce sac. Ben oui, depuis mes 12 ans. Le problème, c'est que sur les pièces, il y a une date, la date à laquelle elles ont été frappées. Et il n'y en a pas une antérieure à 1849. La plupart sont même postérieures à 1852. Elle ment. Et l'idiote ne comprend même pas. Mais comment est-ce que vous pouvez voir tout ça sur des pièces ? Les gendarmes pensent tenir leur deuxième assassin. Et les chrétiens rejoignent Joannon en prison. Mais dans leur esprit, il en manque toujours un. Ils en sont sûrs. Ils étaient trois. Et si le troisième, c'était les époux des champs, les soi-disant héritiers des dames Gaillet. Des voisins ont raconté qu'un jour, Madame Deschamps est venue les voir pour leur demander un faux témoignage, dire qu'à 7 heures le soir du crime, ils les ont vus. Une autre voisine a raconté que le lendemain du crime, elle a vu la femme Deschamps au lavoir laver une chemise. En principe, elle ne fait qu'une seule lessive par mois. Personne ne l'a jamais vue laver une seule chemise au lavoir. Les gendarmes fouillent la maison des Deschamps dans une armoire et ils trouvent des objets qui ont appartenu aux dames Gaillet. Ensuite, ils veulent faire vider le puits. Et pour cela, ils font venir le maçon. La femme Deschamps s'approche alors du chef des gendarmes. Disons qu'il y a là-dedans quelque chose que je veux pas qu'on voie. Elle lui propose de l'argent pour fermer les yeux et ne pas fouiller le puits. Tentative de corruption de gendarme. Le Pandore, honnête, s'en plaint immédiatement au juge d'instruction. Et on vide le puits, bien sûr. Et au fond du puits, on trouve une doloire, une hache de charpentier à manches courtes qui servait aussi sous la monarchie à décapiter les roturiers. Les gendarmes se disent tout de suite que c'est l'instrument qui a servi à trancher le cou de la mère et de la fille. Et cette doloire, elle a été volée aux dames Gaillet. Et voilà donc les Deschamps inculpés à leur tour. Et maintenant, le compte est bon. Ils sont bien trois. Car on exclut les femmes, bien sûr. Complices, mais pas assassins. Deschamps, Chrétien, Joannon. Les trois assassins des dames Gaillet. Maintenant, les gendarmes rêvent d'aveux. Et des aveux, le juge va en avoir dès le 3 avril, quand Chrétien demande à le revoir. Je viens vous dire que je suis coupable. Mais c'est Joannon qui a tout organisé. Hein. Il voulait se venger que la Gaillet n'avait pas voulu de lui. Il était jaloux. Il était jaloux de tout l'argent des femmes. Et comment a-t-il tout organisé ? Ben d'abord, il a parlé à Deschamps, qui est ensuite venu me trouver. Et pourquoi avez-vous dit oui ? Ben pour l'argent, pardi. Alors racontez-moi ce qui s'est passé ce vendredi soir. Deschamps, il est venu me chercher. On a retrouvé Joannon dans la terre des mûriers, derrière chez les Gaillet. On a escaladé le mur, on est entré dans la cuisine où les femmes mangeaient. Et qui a attaqué qui ? Joannon et Deschamps, ils avaient des couteaux, ils se sont jetés sur elle. Sur qui ? Sur la mère et sur la fille. Et vous ? Vous avez fait quoi, vous ? Ah ben moi, j'étais affolé, hein. Je me souviens pas très bien, je suis sorti sur la galerie, j'ai attrapé un caillou, puis j'ai frappé la grand-mère. Je crois que je suis parti. Vous êtes sorti sur la galerie, dans le froid et la pluie, sous l'orage, et vous avez trouvé un caillou. Je crois que ce caillou, vous l'aviez ramassé avant, n'est-ce pas ? Et Chrétien concède que oui. Ce caillou, il l'a bien ramassé avant. Et le juge est bien content. Il vient d'établir la préméditation. Joannon et Deschamps se sont lavé les mains et puis on est allé dans la chambre fouiller les armoires. Je suis reparti avec eux. C'est dans la chambre que vous avez trouvé les deux montres ? Oui, c'est ça, oui. Il dit aussi que c'est Deschamps et Joannon qui ont violé la mère et la fille. Pas lui. Eh ben voilà. Il les a, le juge, ses aveux circonstanciés. Et à cette époque, en 1860, l'aveu, c'est la reine des preuves. Je ne sais pas si Chrétien a réalisé, mais avec ses aveux, il signe sa condamnation. Et même, probablement, sa condamnation à mort. L'idéal, maintenant, ça serait de faire avouer les deux autres. Mais à l'impossible, nul n'est tenu. Joannon et Deschamps continuent de nier en bloc. N'empêche que tous les trois sont renvoyés pour assassinat devant la cour d'assises impériale du Rhône. Et les femmes Deschamps et Chrétien, pour complicité. Le procès s'ouvre dans la foulée, le 11 mai 1860. Pour Chrétien, l'enjeu est limité puisqu'il a avoué. Tout au plus, son avocat peut-il espérer jouer sur la spontanéité de ses aveux et sur son repentir. La veille du procès, Deschamps a tenté de se pendre dans sa cellule. Le lendemain, dans le box, il est très affaibli, il est bouleversé, il est livide. Et lui aussi finit par avouer. Il confirme point par point le récit de Chrétien, sauf le viol de la petite. Ça, il ne veut pas l'endosser. Reste Joannon, qui a maintenant avec lui deux accusateurs dans le box. Et Joannon, il a peut-être pas avoué, mais il a sale réputation, cet attrait pour la luxure. Mais lui, il ne bouge pas, il n'avoue rien. Du coup, son avocat tente de démontrer qu'ils étaient sans doute deux, pas trois, deux. Le jury se retire pour délibérer. Ça dure 2 heures, ce qui pour l'époque est beaucoup. Les jurés ont répondu oui à toutes les questions. Sur le vol, le viol et le meurtre avec préméditation. Et Joannon, Deschamps et Chrétien sont condamnés à mort. 3 mois plus tard, leur pourvoi en cassation est rejeté. Ils espèrent évidemment la grâce de l'empereur, Sa Majesté Napoléon III. Ils rejettent leur recours. L'exécution est fixée au 14 août 1860 à Saint-Cyr au Mont-d'Or. Dès la veille, on commence à s'attrouper dans la rue du palais pour voir le bourreau et assister à ses préparatifs, le montage de la guillotine. Et plus l'heure approche, plus il y a de monde. Des centaines de personnes, à pied, en fiacre, en chariot, qui viennent au spectacle de la mort. À minuit, le directeur de la prison vient chercher les 3 hommes. On leur passe une camisole de force. Ils assistent à la messe. Et à 3 heures du matin, le juge d'instruction et son greffier viennent entendre leurs derniers aveux. Joannon nie jusqu'au bout. À 5 heures, ils sont remis au bourreau du Rhône. On fait leur toilette, on les charge dans la voiture cellulaire qui, précédée d'un régiment de dragons à cheval, emprunte la rue Saint-Jean, puis le quai et le faubourg de Vesse pour arriver jusqu'à Saint-Cyr. Et à Saint-Cyr, il y a tellement de monde que les dragons doivent écarter la foule pour accéder à l'échafaud. Les hommes se découvrent à leur passage. Puis, c'est un long et profond silence. Chrétien et Deschamps montent sur l'échafaud, résignés. Joannon crie une dernière fois qu'il est innocent. Avant 7 heures, ils sont tous les trois guillotinés.
Des centaines d'histoires disponibles sur vos plateformes d'écoute et sur europe1.fr.